Et que la parole de Dieu était la nourriture de la foi.
La nourriture de la foi. Et cette parole de Dieu, elle a besoin évidemment d'être expliquée pour qu'on puisse la recevoir pleinement. Et c'est le rôle du pasteur, du prêtre, du bon pasteur, de donner cette parole pour qu'on la comprenne de mieux en mieux. Pour qu'on voit toute la grandeur de cette parole divine. Elle est une nourriture pour notre foi. Elle est ce qui nous permet de maintenir en nous une foi toujours plus ardente, plus aimante. L'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne sous la forme et les apparences du pain et du vin. C'est Jésus qui nous montre l'ardeur de son cœur, de brûler notre cœur. Il veut lui-même se donner sous les apparences du pain pour nous être entièrement donné, pour nous montrer qu'il se donne totalement jusqu'au bout, qu'il ne garde rien pour lui et qu'il est donné complètement. Et le point de vue du vin montre également qu'il veut être cette boisson qui nous donne la force. C'est très beau de voir ces deux extrêmes. Le pain, c'est nécessaire pour nous, pour continuer la route. Et alors dans l'Écriture, on trouvait des quantités de lieux qui nous parlent de ce mystère du pain. Entre autres, le prophète Élie, quand il est fatigué, épuisé, qu'il n'en peut plus, et qu'il a envie de ne plus continuer sa mission, parce que c'est trop fatigant. Ah, Dieu le réveille la nuit. Et il apporte des galettes de pain qui le nourrissent, qui le réconfortent et qui lui permettent de continuer sa route. C'est des préfigurations merveilleuses, comme la manne, où le peuple d'Israël est nourri par cette nourriture qui vient du ciel. Mais la vraie nourriture qui vient du ciel, Jésus le dit, c'est pas la manne, c'est l'Eucharistie. Qui est le corps du Christ qui nous est donné sous ses apparences. Et c'est le sang de Jésus. Donc le pain, la nourriture la plus nécessaire, et le sang, le vin, la nourriture par excellence, la nourriture de surabondance. Un pauvre qui demande du pain, on ne peut pas lui refuser. Un pauvre qui demande du vin, ah, on ne sait pas s'il faut lui donner. Peur, surtout s'il sent un peu l'alcool. Et c'est très curieux, Jésus prend exprès les deux pour nous montrer à la fois ce qu'il y a de plus nécessaire et en même temps ce qu'il y a de plus merveilleux, la surabondance de l'amour. Et puis la dernière nourriture, c'est Jésus lui-même qui nous l'enseigne dans sa joie d'avoir accompli pleinement la volonté du Père. Accomplir la volonté du Père dans une obéissance va nourrir notre espérance. Parce que ça va nous donner ce contact immédiat avec la toute-puissance du Père. En obéissant, on coopère à son autorité, on coopère à sa toute-puissance miséricordieuse. Et en coopérant de cette manière, on nourrit notre espérance pour permettre de continuer la route. C'est très net que quand on est en face de quelqu'un qui n'obéit pas, ou qui n'obéit plus du tout, très très vite, son espérance anémie. Il n'a plus la même espérance. Je me souviendrai toute ma vie, ça. C'était au Togo. Je prêchais une retraite. Et je me suis trouvé devant un jeune prêtre qui m'a dit son désespoir. Et cet homme paraissait intelligent. Il m'a dit, il y a quelque chose qui ne va plus. Je suis constamment dans le désespoir. J'ai une peine énorme à résister. Et mon espérance dialogale craque. Alors, je crois que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit je vais poser tout de suite cette question parce que je n'y pensais pas du tout à ce moment-là. Je dis, est-ce que vous obéissez dans votre vie? Alors il m'a regardé très étonné. Il voyait pas du tout le lien. Il m'a dit jamais. Je dis, vous n'avez jamais obéi? Non, j'ai jamais obéi. Parce que au grand séminaire et au séminaire, j'étais toujours premier, le plus intelligent. Alors, je faisais tout ce que je voulais. Puis après, quand j'étais nommé prêtre, l'évêque m'a pris tout de suite comme conseiller, me faisant comprendre que j'étais plus intelligent que lui, je pouvais l'aider. Et donc, j'ai jamais obéi dans ma vie. Je sais pas ce que c'est que l'obéissance. Ah, mais alors, oui, c'est pas étonnant. Si vous savez pas ce que c'est que l'obéissance, c'est pas étonnant. Votre nourriture, votre espérance ne peut pas se nourrir. Elle ne se concrétise pas dans votre vie. Vous ne vous appuyez plus sur l'autorité. Vous n'avez donc plus ce support et cette force que vous donnerait une autorité divine qui vous permettrait d'avancer. Puis j'ai essayé de développer tout cela. Puis après, j'ai réfléchi beaucoup. Et ça m'a semblé très net. C'est que par l'obéissance, on fait œuvre commune avec le Père. Et on a ce contact direct avec lui, avec sa toute-puissance miséricordieuse. Et par le fait même, notre espérance peut se nourrir de cette espérance miséricordieuse et aller jusqu'au bout des exigences de l'espérance. Ces trois nourritures, c'est très important de les comprendre. Et vous voyez, il y a des liens avec les trois alliances, c'est ça qui est très curieux. Mais les trois nourritures finalisent bien l'Église. Et l'Église est faite pour nous donner ces trois nourritures. Et quand, si l'Église n'existait pas, ces trois nourritures, elles ne pourraient pas être données avec la même intensité. Tandis que, grâce à l'Église, elles peuvent être données avec cette intensité. Et c'est pour ça que l'Église existe. C'est pour être le lieu où les brebis du Christ puissent s'engraisser, puissent survivre pleinement. C'est, je crois, le sens profond de l'Église. Et voyez, c'est bien à cause de cette charité fraternelle et de ce corps par où la grâce peut s'incarner pleinement et prendre toutes ses dimensions.
On peut être arrêté pour ce soir. Vous avez à plusieurs reprises parlé de saint Thomas d'Aquin. Donc vous avez rencontré dans l'ordre dominicain cette grande figure théologique. Est-ce que vous pourriez nous parler de saint Thomas et dire à la fois un peu quel est ce personnage, quelle est son œuvre et est-ce qu'il est encore d'actualité aujourd'hui, Thomas d'Aquin?
Quand je suis entré dans l'ordre de saint Dominique, 1930, l'enseignement qu'on recevait était très lié à saint Thomas, d'une manière très belle et profonde. On lisait le texte de saint Thomas, on essayait de le comprendre et de voir un peu le regard de saint Thomas. Il y a chez saint Thomas un regard contemplatif, extrêmement net, et qui peut seul faire comprendre ce qu'est la théologie de saint Thomas. saint Thomas disparaît dans ce qu'il a d'individuel devant la révélation elle-même. C'est le mystère de Dieu qui l'intéresse. C'est du reste ce qu'on rapporte le jeune Thomas d'Aquin chercher à connaître Dieu. C'était son seul désir. Et je crois que c'était le seul désir de Thomas d'Aquin, c'est de connaître Dieu, de vivre de lui, par Jésus. Et en Jésus. Puisque il est le Fils bien-aimé du Père, Dieu lui-même qui nous conduit au Père. Et tout l'effort de saint Thomas, c'est de mettre son intelligence très pénétrante, très métaphysique, dans le sens où dire une intelligence qui cherche la vérité à travers tout et plus que tout, mettre cette intelligence au service de la parole de Dieu pour aller le plus loin possible dans cette contemplation de la parole de Dieu. Quand on regarde un peu saint Thomas théologien, saint Thomas disciple d'Albert le Grand. Au point de départ, il reçoit cet enseignement d'Albert le Grand, qui est inscrit dans la tradition et en même temps qui a toute l'originalité et la curiosité d'un Albert le Grand, qui était un esprit très universel. Et de son temps, un des plus grands savants, savant dans le sens de cette époque, c'est-à-dire un philosophe, et un philosophe très tourné vers les réalités de la nature, un philosophe très intéressé à tous les vivants, et intéressé à l'homme. Albert le Grand a été très influencé par tout le courant d'Avicenne. C'est par là qu'il atteint un peu la philosophie grecque et la philosophie d'Aristote. Et saint Thomas, au point de départ, est vraiment disciple d'Albert le Grand, un disciple très remarquable. Albert le Grand, et en même temps, au-delà de cette docilité, ce souci d'aller le plus loin possible dans cette recherche de la vérité. Et progressivement, on voit que le premier enseignement de saint Thomas est dans la tradition. Les théologiens faisaient de ce temps un commentaire des sentences qu'on a encore, où il est très fort lié à la tradition, mais déjà on découvre ses intuitions dominantes. On voit percer chez lui un souci d'aller plus loin que ce qu'il a reçu. On sent qu'il secoue un tout petit peu cette tradition pour la rendre plus intelligible. Parce que le livre des sentences de Pierre Lombard, c'est bien comme synthèse, mais c'est pas toujours très pénétrant. Et saint Thomas n'est pas très à l'aise dans ce cadre. Et on voit bien comment il veut et il le demande de revenir à une philosophie plus pure, ce génie de saint Thomas, ce côté original de saint Thomas, qui veut laisser l'intelligence aller le plus loin possible. Le contre-gentil est assez remarquable pour ça. Il montre ce qu'au Moyen-Âge on appelle les preambula fidei, tout ce que l'intelligence humaine peut atteindre par elle-même. Il faut la laisser libre, et la foi n'est pas du tout quelque chose qui vient diminuer cette liberté. Au contraire, elle permet à l'intelligence d'aller plus loin en lui donnant comme une sécurité, une certitude plus profonde. C'est peut-être moi ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir la confiance que saint Thomas a dans l'intelligence humaine, cette confiance prodigieuse. On dira peut-être de temps en temps que c'est de la naïveté. Je ne crois pas que c'est de la naïveté. Je crois que c'est l'attitude de celui qui a confiance dans ce don que Dieu lui a fait de l'intelligence, de l'esprit, qui cherche la vérité. Et dans le contrat gentillesse, il montre bien qu'il ne peut pas y avoir de conflit entre une intelligence qui cherche la vérité et la foi, puisque cette intelligence qui recherche la vérité et la foi, toutes les deux, sont des dons de Dieu, sont des dons du même Dieu, qui est vérité, qui est lumière. Et si l'intelligence est le don radical qui provient de notre âme spirituelle, et si la foi est un don gratuit, surnaturel, donné par le Christ, les deux doivent concourir vers la même recherche. Le bonheur de l'homme plaignait qui est de voir Dieu tel qu'il est. Et cette confiance justement que saint Thomas a dans l'intelligence, il montre que l'intelligence radicalement est faite pour Dieu, et que l'intelligence ne peut se reposer dans sa recherche de la vérité que dans la mesure où elle arrive à découvrir le mystère de Dieu dans toute sa pureté. Et là, il y a quelque chose que je trouve très impressionnant, parce que c'est ce souci qu'a maintenu saint Thomas au milieu de toutes les disputes, au milieu de toutes les difficultés, au milieu de toutes les luttes. C'est pas un théologien qui s'est reposé, saint Thomas, c'est un théologien qui a travaillé d'une façon prodigieuse quand on voit tout ce qu'il a fait en si peu d'années. Par son ardeur à cette recherche de la vérité, par cette confiance qu'il a fait et qu'il faisait à sa recherche et à la recherche des hommes. Et en même temps, cette humilité, cette petitesse en face de ce don que Jésus lui donne de la foi, et d'une foi qui est avide, elle aussi, de contemplation, une foi tout aimante. Le contrat gentilès, je crois, représente dans cette recherche de saint Thomas un moment capital pour comprendre justement, d'une part, la force très spéciale de cette intelligence de saint Thomas. L'intelligence d'Albert le Grand est très curieuse de tout et des réalités de la nature. C'est du côté, j'allais presque dire, de l'extension qu'on voit ce génie d'Albert le Grand. Chez saint Thomas, son génie Dieu, sachant que plus il connaîtra Dieu, plus il découvrira l'homme à l'image de Dieu, plus il découvrira la profondeur de l'âme. Et dans cette recherche profonde de Dieu, il y aura ce souci de découvrir ce qu'est l'âme spirituelle, ce qu'est l'intelligence. Comment l'intelligence a cette autonomie dans la recherche de la vérité, et comment l'intelligence a reçu de Dieu cette lumière qui lui permet d'avoir cette force et cette fidélité dans la recherche de la vérité. Ce n'est pas le contrat gentilesse, mais qui est l'œuvre ultime de saint Thomas, au point de vue théologique. C'est la somme théologique. C'est-à-dire cette œuvre de maturité au plan théologique, où saint Thomas, par amour pour les étudiants et pour les aider, ses étudiants, ses frères, dans l'ordre de Saint-Dominique, il veut donner un ordre de sagesse à toute cette recherche de la théologie. Si le contrat gentilès est une œuvre à la fois philosophique et théologique, la somme est une œuvre de théologiens. Et c'est à travers la somme, je crois, qu'on découvre un des aspects, pas le seul, de saint Thomas, théologien. Je ne dis pas le seul parce que il y aura toujours des questions disputées. On voit le théologien face à des opinions diverses. Et on voit là, j'allais dire, plus l'originalité de saint Thomas, sa recherche, son inquiétude, son désir d'aller toujours plus loin. C'est dans les questions disputées qu'on découvre cela, avant tout. Et le De Potentia. Et puis il y a aussi les commentaires de l'Écriture. On découvre saint Thomas beaucoup plus comme contemplatif. C'est dans son commentaire de l'Évangile de saint Jean qu'on découvre le saint Thomas contemplatif. Et qu'on découvre aussi la signification ultime de cette théologie. Le théologien ne s'arrête pas à ses conclusions. Ce serait une très grave erreur de croire que le théologien s'arrête à ses conclusions comme à un avoir. Pour saint Thomas, le théologien reste toujours pauvre parce que il est dans un état de dépendance à l'égard de la révélation. Il est serviteur de la révélation de Dieu. Et il n'a qu'un seul désir, c'est d'entrer plus avant dans cette contemplation pour se préparer à la vision béatifique. Et donc il y a toujours chez lui ce souci de revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu ayant une richesse plus grande que tout l'effort du théologien qui veut en donner une intelligence. L'intelligence de la foi est moindre que la foi. Et saint Thomas en est convaincu. Et c'est pour ça que toute l'œuvre de cette théologie est ordonnée à cette contemplation, à cette foi contemplative, à cette foi qui se nourrit de plus en plus de la parole de Dieu, du mystère du Christ. Puisque tout aboutit et s'achève à ce mystère de Jésus. C'est là où on voit, je crois, cet équilibre dans saint Thomas. Quand on voit le contrat gentilès et ce souci jusqu'à sa mort de commenter les écrits d'Aristote. Je dirais, là on voit le théologien qui sait que si il veut être le chien serviteur de la parole de Dieu. Il doit aiguiser toujours son intelligence pour que son intelligence soit toujours plus pénétrante. Quand cet homme précise, avec, dans une étymologie qu'on peut discuter, mais qui est très significative parce que justement elle est assez particulière, quand il dit que l'intelligence est intus legere, c'est lire de l'intérieur, je crois que ça montre bien ce souci d'une limpidité très extraordinaire qu'il a compris. Nos sens voient les choses de l'extérieur et l'intelligence les voit de l'intérieur. Et alors si on pousse jusqu'au bout, la foi nous permet de les voir avec l'intériorité de Dieu. Et si la foi nous permet de les voir avec l'intériorité de Dieu, on voit comment l'intelligence, grâce à la foi, pourra aller plus loin et qu'elle sera en attente de cette vision béatifique où on verra tout dans la lumière de Dieu, où d'une certaine manière Dieu prendra tellement possession de notre intelligence que nous pourrons regarder tout et le mystère de Dieu en premier lieu dans la lumière de Dieu. Et les précisions que saint Thomas donne par rapport à la vision béatifique nous montrent bien son désir d'être un vrai contemplatif, celui qui regarde Dieu à la lumière de Dieu, celui qui regarde Dieu dans l'amour même de Dieu, et qui par le fait même qu'il regarde tout dans la lumière de Dieu et dans l'amour de Dieu, il regarde les hommes avec tout l'amour et toute la lumière de Dieu pour saisir toujours en eux ce qu'il y a de plus grand, de plus beau. Il y a cette première dimension que je crois capitale dans saint Thomas. Elle est fondamentale. Une intelligence qui cherche la vérité. Et jusqu'au bout, il commentera Aristote.
Est-ce que vous pouvez davantage préciser comment est-ce qu'il a assumé la philosophie d'Aristote ? Et je crois que c'était pas une évidence, au moment où il l'a fait, ça a suscité beaucoup de polémiques.
Sûrement que, revenant à Aristote, la Sorbonne n'était pas du tout d'accord. On considérait qu'il revenait vers le païen. Avicenne, étant musulman, croyant dans le Créateur, alors qu'Aristote, c'est le païen. Et parce que c'est le païen, passer d'Avicenne à Aristote, c'était un retour en arrière. Et qu'on considérait Aristote avant tout, parce que l'Aristote latin, c'était l'Aristote de la logique. Et on considérait Aristote comme le philosophe de la nature, donc de la matière. Et toutes les discussions qu'il y avait eues avec Avicenne et Averroès comme compréhension d'Aristote faisait que certains considéraient dans le courant d'Averroès Aristote comme un matérialiste, un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui du reste, ce qu'on voit chez certains marxistes à Moscou. On est contre Platon parce que c'est le philosophe idéaliste bourgeois et on accepte Aristote à cause de son réalisme. Mais on regarde avant tout Aristote, le philosophe de la matière. Et il y avait un peu cet aspect-là, de considérer qu'Aristote était le philosophe de la matière qui, au fond, ne regardait Dieu que comme le moteur immobile. Ce qu'Aristote dit dans sa physique. Saint Thomas a eu là une audace et une indépendance extraordinaire par rapport à son temps. Et c'est là où on saisit combien, dans sa recherche de la vérité, il est inflexible. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, l'opinion des hommes, ce qu'il recherche, c'est cette vérité. Il a eu une grâce ou un coup de génie. transmettez Aristote. Le transmettez d'une manière qui n'était pas assez pure. Et c'est pour ça qu'elle a voulu qu'on traduise pour lui la métaphysique d'Aristote. Puisque c'était ça qui l'intéressait le plus, et l'éthique. Pour avoir un contact plus direct. Et pour découvrir chez le philosophe, puisque c'est comme ça qu'il le considère, découvrir sa manière de découvrir le mystère de Dieu. C'est sûr que saint Thomas commente Aristote d'une manière toute différente qu'on le ferait aujourd'hui. C'est de son temps, il est commentateur d'Aristote. Il ne se dit pas philosophe, mais se met comme disciple d'Aristote. Mais un disciple qui a la foi et qui sait qu'il peut rectifier, purifier ce philosophe qui n'avait pas la foi et qui, sur certains domaines, ne va pas assez loin. Et donc, il se sert d'Aristote dans un sens très noble, puisqu'on ne se sert pas de l'intelligence de quelqu'un au sens rigoureux. On l'accompagne, on coopère avec lui en vue de la vérité et pour la recherche de la vérité. Et Aristote, pour lui, c'est celui qui a aimé la vérité. Et tous ceux qui aiment la vérité peuvent coopérer ensemble. Ce sont des amis. Et il y a entre Thomas d'Aquin et Aristote, je crois, cette complicité profonde de ceux qui recherchent la vérité. Alors qu'ils ne s'inquiètent pas tellement de savoir si littéralement Aristote a pensé ça ou pas pensé ça. Il a cherché la vérité. Et comme celui qui cherche la vérité, on peut faire route ensemble, et on fait route ensemble. Et il interprète Aristote dans cette recherche même de la vérité. Et il a cette intention que si il précise davantage la vérité que Aristote, il saisit plus Aristote encore que s'il prenait matériellement ce que dit Aristote. Je crois que c'est cette audace intellectuelle qu'on a très peu aujourd'hui, parce que on est pris par le point de vue plus historique de l'authenticité de ce que quelqu'un a dit. C'est très bien au point de vue historique, mais au point de vue de la liberté de recherche dans l'ordre de la vérité, ça peut arrêter et on n'a plus cette espèce de compagnonnage dans l'ordre de l'amitié. Les amis, ce sont ceux qui ont le même vouloir. Et quand les amis, ce sont ceux qui recherchent la vérité des philosophes, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Et au fond, je crois que c'est ça le génie de saint Thomas par rapport à Aristote. C'est que vraiment, pour lui, Aristote est un ami, parce qu'il a cherché la vérité. Et alors là, il y a eu, de la part de saint Thomas, par rapport à son temps, quelque chose de très très spécial. Il a compris qu'il y avait là quelque chose d'unique et qu'il fallait dépasser Avicenne pour redécouvrir dans toute sa pureté ce côté génial d'Aristote. Et sous ce point de vue-là, on peut dire que saint Thomas est un de ceux qui ont le mieux interprété Aristote, parce qu'il l'a pris dans la perspective même d'Aristote, au-delà de la question du temps. Au fond, au point de vue purement philosophique, ça n'inquiète pas saint Thomas, qu'Aristote n'est pas la révélation. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. On a été trop fidéiste, on dirait, puisqu'Aristote n'a pas eu la révélation. Donc il est inférieur aux autres. Alors que non. Aristote peut avoir eu, dans l'ordre de la recherche de la vérité au plan philosophique, des grâces que d'autres qui ont la foi ne l'ont pas eues. Et c'est ça que saint Thomas a découvert et à l'audace d'affirmer. Et je crois que c'est cette audace intellectuelle qu'on retrouve à travers toute son œuvre. C'est une des choses, moi, qui me frappe beaucoup. C'est que lorsque saint Thomas commence son traité dans la Somme sur le De Deo Uno, donc sur le traité de Dieu, dans son unité, ce que l'intelligence humaine peut dire, saint Thomas ne prend pas, quand il cherche la manière dont Dieu existe, saint Thomas ne prend pas l'ordre de la révélation. Il prend un ordre de son intelligence de philosophe. Autrement dit, chaque fois que l'intelligence peut dire quelque chose, le croyant, Thomas d'Aquin, se tait et laisse passer devant l'intelligence. Je trouve ça extraordinaire chez un saint. Parce qu'on peut dire, bah, il manque de foi. Pas du tout. Il a la vraie foi. La vraie foi, c'est ça. Ce n'est pas une vraie foi que de ne pas respecter l'intelligence. C'est un manque de foi. Parce que c'est un manque d'audace par rapport au Dieu créateur. Je crois qu'on retrouve là ce que Jésus, à la croix comme fils bien-aimé du Père, a eu comme respect par rapport à l'œuvre du Père, par rapport à l'image de Dieu dans l'homme. Il a respecté jusqu'au bout ce que le Père, comme créateur, voulait faire de l'homme. Et saint Thomas a compris cela, que le vrai croyant devait avoir un très grand respect de l'intelligence qui cherche la vérité. Et quand l'intelligence humaine peut dire cette vérité, le croyant se tait. Et la foi parle lorsque justement on est dans un domaine où seul le croyant peut parler. Alors, à ce moment-là, l'intelligence se tait. Mais ça, c'est très unique, cela. Parce que on a toujours un tout petit peu cette espèce de dévotion affective. Il dit que, mais non, la foi, c'est plus, il faut la laisser passer, c'est la parole de Dieu. Mais on oublie que notre intelligence, elle vient de Dieu. Et ne pas avoir ce sens de la grandeur de l'intelligence et de la profondeur de l'intelligence, mais ça blesse Dieu, puisque c'est le don radical que Dieu nous a donné, et qui nous l'a donné pour que nous puissions être des chercheurs de vérité. Et puis, la foi, elle est reçue dans notre intelligence. Si notre intelligence ne recherche pas la vérité, et que notre intelligence est dans un état encore très frustre, lié à des quantités de choses qui ne sont pas la vérité, et qui sont plus ou moins des opinions erronées, l'exercice même de notre foi sera gêné. Puisque je ne peux pas faire un acte de foi sans faire un acte d'intelligence, puisque la foi est reçue dans l'intelligence. Et donc, ma foi ne pourra pas avoir sa pénétration plénière si mon intelligence n'est pas purifiée. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est sûr. Mais l'Esprit Saint veut aussi que ce soit l'œuvre de nous-mêmes, l'œuvre de l'homme. Toutes les purifications actives, l'homme doit les faire. Et on doit purifier notre intelligence pour que notre intelligence soit plus capable d'exercer un acte de foi plus pur. Je crois qu'il y a ce double souci chez saint Thomas, le respect de l'intelligence, et puis comprendre que le croyant ne supprime pas l'homme, et le croyant demande la coopération de l'intelligence pour qu'il soit plus croyant et qu'il aille plus loin dans sa foi. Je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait caractéristique de saint Thomas, et qui est peut-être le propre de saint Thomas, qui est peut-être quelque chose d'unique dans l'histoire de l'Église. Tellement il a été loin dans cette recherche de l'intelligence. Évidemment, c'est ce qui fait qu'aussi saint Thomas est quelquefois si difficile pour nous, et si loin de nos préoccupations, parce que il a un tel souci de vérité que tout le reste est second. Mais celui qui a compris ça et qui entre un tout petit peu dans cette perspective, alors découvre cette lumière étonnante qui est au-delà de tous les temps. Évidemment, il y a à dépasser ce conditionnement dans lequel nous sommes, un conditionnement qui est particulièrement pesant. Tout ce poids des idéologies contemporaines, des idéologies athées, tout ce poids d'une intelligence qui a beaucoup de peine d'atteindre son orientation contemplative, cette soif de vérité. Alors, c'est rude de pouvoir pénétrer dans la pensée de saint Thomas. Il y a donc cette grande dimension qui est très nette dans saint Thomas. Dire l'intelligence capax dei, c'est quand même quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose de merveilleux de voir comment cette intelligence faite pour la philosophie première, pour la métaphysique, comme dira saint Thomas, elle est faite pour ce qui est en tant qu'être. Et donc elle est faite pour Dieu. Ça c'est très audacieux, mais c'est merveilleux de comprendre cela. Cette seconde dimension de saint Thomas sera justement saint Thomas, théologien contemplatif. J'insiste parce que c'est très important de comprendre que pour saint Thomas, ce n'est pas l'aspect logique qui est premier. Tout de suite après saint Thomas, au fond, c'est cet aspect logique de la somme qui a dominé, l'aspect rationnel et logique. Alors que pour saint Thomas, l'aspect contemplatif est nettement ce qui domine. Et cependant, c'est vrai que saint Thomas a un souci de faire une théologie scientifique. Et c'est le caractère propre et nouveau au plan théologique. Quand on regarde la théologie avant saint Thomas, on voit qu'en effet, la théologie reste à un plan peut-être très descriptif. Chez les pères de l'Église, c'est très net. Un plan, je dirais, plus extérieur. Saint Thomas a eu cette audace, je crois, parce qu'il a vu combien le point de vue de l'intelligence qui recherche la vérité est peut-être entièrement assumé par la foi. Qu'il n'y ait pas de hiatus entre les deux, grâce justement à sa conception de l'analogie, qu'on a souvent très mal traduit. Quand on voit, par exemple, un Barthes qui nous dit que l'analogie de saint Thomas, c'est le démon, parce que justement, on croit que l'analogie, c'est une analogie de similitude avant tout. L'analogie que prend l'artiste. Alors que pour saint Thomas, l'analogie qu'il a puisée du reste à Aristote est une analogie avant toute diversité. Quand on dit que la bonté en Dieu et en nous est analogique, c'est-à-dire elle est avant tout totalement différente en Dieu et en nous. Et non pas dire en premier lieu, oui, il y a une similitude entre la sagesse de Dieu et la nôtre, ou entre la bonté de Dieu et la nôtre. Non, on affirme d'abord la diversité. Et en affirmant la diversité, on montre cependant qu'il y a quelque chose de commun. Et donc, il n'y a pas d'anthropologie, d'anthropomorphisme dans saint Thomas. C'est l'intelligence dans toute sa pureté, portée par la foi, qui découvrira dans l'écriture les diverses analogies dont peut se servir le théologien. Et saint Thomas se servira presque toujours de deux analogies qu'il trouve dans l'écriture et qui sont diverses, même presque opposées, pour mieux mettre en lumière la transcendance du mystère. C'est ce qu'on ne voit plus du tout quand on regarde l'aspect logique de la somme en premier lieu. Et quand on regarde l'aspect logique de la somme en premier lieu, c'est très propre. Mais ce n'est pas du tout l'intériorité de saint Thomas. C'est vu la somme dans un point de vue très extérieur et qui fausse alors entièrement la pensée de saint Thomas. On dit que saint Thomas, c'est celui qui a rationalisé la foi, ce qui est tout à fait faux. Il n'a pas rationalisé la foi d'abord. Le mot rationaliser, pour saint Thomas, n'aurait pas de sens. On pourrait dire qu'il a cherché l'intelligence de la foi. C'est tout à fait différent. L'aspect rationnel et second est au service du point de vue de l'intelligence. Et cette intelligence de la foi, elle s'achève dans une contemplation. Elle s'achève dans un retour vers la révélation, la parole de Dieu, pour nous permettre de contempler le mystère. C'est tout le fruit d'une contemplation qu'on essaie de donner de la manière la plus intelligente qui soit. Je crois que saint Thomas a très bien compris que Dieu seul pouvait nous parler, lui, d'une manière symbolique, en parabole, ce que dit Jésus du reste. Mais le théologien, quand il répond à Dieu, ne va pas répondre en parabole, ne va pas répondre d'une manière symbolique. Il va d'abord essayer de comprendre avec la plus grande pénétration intellectuelle, par respect pour Dieu. C'est un respect par rapport à la parole de Dieu, cela. Ce qu'on a souvent très très mal compris, en comprenant que saint Thomas était un rationaliste, en comprenant que saint Thomas était avant tout celui qui voulait mettre tout dans un système logique. Saint Thomas sait trop bien ce que c'est que la logique, l'art des arts, comme il le dit. Il sait trop bien ce que c'est que l'analogie pour ne pas
échelons successifs, le théologien doit
respecté par le fait même le mode humain de connaître, mais ne s'arrête jamais à ce mode humain, parce qu'il est saisi par cette lumière intérieure de la foi qui le conduit au mystère et qui l'exige de s'arrêter uniquement au mystère. Mais encore une fois, vu de l'extérieur, ça peut paraître un rationalisme terrible.
Est-ce que ça n'a pas été accentué, cette impression, par les commentaires de saint, les commentateurs de saint Thomas ?
Sûrement.
Est-ce que le thomisme, vous pourriez en dire un mot, parce que c'est peut-être toute la scolastique qui a suivi, qui a un peu déformé peut-être l'image de saint Thomas. C'est quoi finalement le thomisme ?
Le thomisme, c'est l'école. Et l'école, on voit ça en peinture et dans l'art. On voit les maîtres et l'école. Là, il faut toujours distinguer. En art, on fait des distinctions très nettes. Quand on voit dans un musée, on voit l'école, et l'école, ça dure, et alors on passe ça à toute vitesse pour rejoindre le maître. Eh bien, il y a quelque chose comme ça dans la scolastique thomiste. Il y a saint Thomas, et puis il y a l'école. Bon, l'école, c'est les disciples. Les disciples sont pas plus grands que le maître. Alors, s'ils étaient toujours très respectueux du maître, ils montreraient que le maître les dépasse. Et il ne développerait pas ce qui est le plus facile à développer, c'est-à-dire l'aspect logique. Ce qui est le plus facile à développer, certainement, c'est l'aspect logique. Ce qui est le plus difficile, c'est de comprendre les analogies dans leur sens le plus profond. Et donc, de comprendre l'esprit contemplatif de saint Thomas. Et c'est cet esprit contemplatif de saint Thomas qu'on devrait sauver. Alors, les très grands scolastiques ont essayé de sauver. Mais il y a le poids de la tradition scolastique décadente qui fait qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus que la logique. Et très vite, on voit ça.
Est-ce qu'au fond, une des erreurs de la scolastique n'a pas été de chercher à extraire une philosophie de la théologie de saint Thomas, en oubliant que saint Thomas avait une perspective de théologien lorsqu'il utilisait des éléments de philosophie ?
Oui, il y a cela. Et ce qui fait que la philosophie thomiste, dès le point de départ, je crois, est viciée. Chez Suarez, elle est viciée. Parce que ce n'est plus vraiment le jugement d'existence qui est au point de départ, mais c'est l'idée d'être. Ce que Heidegger ne peut pas sentir, du reste, et là il a eu raison de montrer qu'il n'y a pas d'idée d'être, que la métaphysique, du moins, il n'y a pas d'idée d'être comme la scolastique suarezienne peut en parler. L'idée d'être fini, infini, ça ne peut pas exister, ça. Donc, en extrayant de saint Thomas une philosophie, on extrait, j'allais dire, plus une logique que le contenu métaphysique. Puisque dès que le théologien se sert de la philosophie, se sert de la sagesse philosophique, il s'en sert dans la lumière de la foi. Donc, on ne peut plus séparer ce qui était uni. Il y a eu une unité, la pensée théologique est une, et on veut extraire de cette unité l'élément logique. Et l'élément logique a été assumé par la foi, donc on ne peut plus l'extraire. Il faut reprendre tout le problème de la philosophie pour elle-même, pour comprendre comment cette philosophie qui relève de l'intelligence humaine, qui a sa vie propre, qui a son ordre propre, doit se développer indépendamment de la foi. Donc, il y a eu cette erreur, et l'erreur au plan proprement théologique, ça a été d'oublier ce primat de la sagesse théologique. On a plus considéré les conclusions théologiques, fruit d'un raisonnement, que le point de départ, qui seul est contemplatif. Comprendre que tout relève de la révélation. Et avant de regarder les conclusions, il faut recevoir cette lumière. Et après avoir vu les contemplations, on remonte vers cette lumière. C'est, je crois, ce que saint Thomas lui-même souligne dans sa première question de la Somme, quand il parle de ce qu'est la doctrina sacra. Saint Thomas montre bien qu'il y a un mode scientifique qui est humain, mais que la théologie est une sagesse. Or, saint Thomas dit lui-même, la sagesse habitus contemplativus. La sagesse, c'est un habitus, c'est-à-dire quelque chose qui vient ennoblir l'intelligence de l'intérieur, pas comme une méthode extérieure, mais comme quelque chose qui, de l'intérieur, ennoblit l'intelligence en l'orientant vers la contemplation. La sagesse a comme fruit propre la contemplation, et donc un au-delà du raisonnement. Elle ne méprise pas les raisonnements qui sont la recherche. Il faut tout le temps cette recherche. Mais il y a un au-delà du raisonnement, qui est la contemplation. Et c'est cet aspect-là qui a été beaucoup moins transmis dans l'école. C'est du reste beaucoup plus difficile à transmettre. Transmettre l'aspect logique, ben je dirais c'est facile parce que c'est le mode humain. Transmettre la contemplation, ça exige que chacun fasse cet effort, lui-même et personnel, de jamais s'arrêter aux conclusions. En scolastique décadente, on sait, on a eu comme souci principal d'une précision, logique toujours plus grande, ce qui est secondaire. On s'est soucié plus de ce qui est communicable que du contenu de la communication. Ça, on comprend très bien ça aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, le souci dominant de la scolastique décadente. On se soucie plus de la manière de communiquer que du contenu de la communication. Le contenu de la communication, c'est la contemplation. Et la manière de communiquer, c'est une technique. Et la technique ici, c'est la logique.
Si on regarde aujourd'hui comment est perçu Thomas d'Aquin, on a l'impression que d'un côté, pour certains, il est une borne, c'est-à-dire on va puiser toutes les... des définitions dans Thomas d'Aquin et il apparaît un petit peu comme un dictionnaire de définitions et il faut surtout pas dire quelque chose qui n'aurait pas été dit par Thomas d'Aquin et pour d'autres au contraire il n'a plus aucune valeur, plus aucune actualité
et même il était dangereux.
Ouais. Votre position semble beaucoup plus originale vous.
C'est-à-dire que
quelle est l'actualité pour vous de Thomas d'Aquin aujourd'hui? Quelle est l'utilité? Enfin,
je crois que l'actualité de saint Thomas d'Aquin c'est l'actualité de l'intelligence. Est-ce que l'intelligence est actuelle? Est-ce qu'il faut être intelligent dans le monde aujourd'hui? Moi, je dirais qu'il faut être plus intelligent que jamais. Parce qu'on est en face d'idéologies athées qui sont tellement massives qu'elles mettent sur nous cette calotte de plomb et qui fait que c'est si difficile à dépasser. Je pense toujours, voyez, à Mexico. J'ai pu y aller une fois pour aller prier auprès de Notre-Dame de Guadeloupe. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on m'a dit que Mexico tend à devenir la ville la plus grande du monde. Il y a une pollution effrayante. Mexico est une ville entourée de volcans. Et paraît que c'est très très beau. On ne voit ces volcans qu'une ou deux fois par an, quand il y a un vent suffisamment fort pour chasser toute la pollution. Autrement, on ne voit plus rien du tout. Et je dirais, il y a une pollution intellectuelle tellement forte aujourd'hui qu'on ne voit plus les volcans et qu'on ne voit plus cette calotte de plomb. Et je crois que saint Thomas nous donne l'air pur. Pour moi, c'est ça. Cet oxygène théologique, cet oxygène dont on a tellement besoin pour l'intelligence. Retrouver cette limpidité d'une intelligence qui cherche la vérité. Cette confiance que l'homme doit avoir dans l'intelligence qui cherche la vérité, pour que cette intelligence puisse être de nouveau au service de la foi. Donc, saint Thomas, c'est pas les conclusions de saint Thomas qui m'intéressent le plus, mais non, parce qu'au fond, je dirais, si je prenais les conclusions de saint Thomas et que je les servais tout le temps, tout de suite, c'est imbuvable pour notre monde d'aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Ce qui me sert dans saint Thomas, c'est que je peux là puiser quelque chose de limpide, qui est toujours actuel, dans cet esprit contemplatif. Saint Thomas est une source, et je crois que c'est vraiment une source. Mais il faut aller très loin pour trouver la source. Les canalisations eau chaude, eau tiède, c'est un peu affolant. Les commentateurs de saint Thomas, c'est très bien pour des érudits, c'est très très bien, et puis peut-être pour former, faire des gammes, mais on ne fait pas un concert en se servant des gammes, on dépasse. Et il faut redécouvrir la source. La source, elle est très cachée, comme toujours. C'est ce contact avec cette intelligence de saint Thomas, si limpide, si pure, encore plus pure que cet Aristote, encore plus limpide que cet Aristote, parce qu'il y a eu la foi chrétienne, qui l'a rendu encore plus limpide. Et c'est très important, ce contact, puisque si on est l'ami de saint Thomas, on découvre ses secrets, on découvre alors cette intériorité de l'intelligence, à l'état presque natif, à l'état très pur, parce que je crois que la foi permet à notre intelligence d'avoir cette limpidité d'une intelligence qui cherche la vérité, qui a un appétit de vérité, un appétit de contemplation. Et saint Thomas, pour notre monde d'aujourd'hui, dans la mesure où on a eu le courage de s'y mettre, parce que c'est ça qui est difficile, hein. Un moderne, je le lis tout de suite. Je le comprends un peu si je suis un peu dans la philosophie moderne. J'arrive à le comprendre vite. Saint Thomas, il faut des années pour le comprendre. Comme Aristote. Parce qu'il faut remonter le fleuve, il faut remonter la source. Et je crois que c'est ça qui fait que la plupart du temps, on n'a pas le temps. Ou on n'a pas le courage. Parce qu'on n'a pas cette conviction intérieure que là, il y a une source. Et on est un petit peu comme Agar dans le désert. Elle s'affole, elle crie, parce elle est pleine de douleur parce que l'enfant crie. Et Dieu lui ouvre les yeux. Mais là, il y a un puits, là, il y a une source. Et on a oublié ça. On a oublié les vrais sommets profonds auxquels il faut revenir constamment. De sorte que saint Thomas est-il actuel? Est-ce que la recherche de la vérité est-elle actuelle? Si la recherche de la vérité est au-delà de tous les temps, je vais tout de suite auprès de ceux qui ont atteint plus profondément cette vérité. On fait ce dépassement de ce conditionnement humain pour découvrir ce qu'est la finalité de l'intelligence. Alors, à ce moment-là, ils sont des amis très chers, au-delà des différents moments. Aristote, saint Thomas sont proches. Métaphysiquement parlant, ils sont proches, ils sont très loin, s'ils les regardent dans leur contexte historique. Et c'est vrai, ils sont très loin, mais il y a quelque chose de commun. Saint Thomas est très proche de nous. Si nous comprenons cela, je dirais en art, c'est un peu la même chose. Moi, c'est ça qui m'ahurit de temps en temps. C'est qu'on est en admiration devant une église comme Sénanque. C'est vrai, ça nous repose. On est en admiration devant l'art roman, devant ce premier gothique. Je dis bien le premier gothique. On est en admiration et on ne comprend pas la pensée de ce temps. Or, tout cet art présupposait cette pensée, cette contemplation. Alors, on regarde l'extérieur au fond de cet art et on ne veut pas creuser un peu. Si je suis en admiration devant ces édifices du XIIe et XIIIe siècle, je devrais être en admiration devant toute cette pensée théologique. Non, pas du tout pour la répéter, on ne peut pas la répéter. C'est faux ce néotomisme. Il n'y a pas de néotomisme. Il y a la recherche de la vérité, et puis c'est tout. Et c'est cette recherche de la vérité qu'on doit chercher. On n'est ni thomiste, ni scotiste, ni ça. On aime saint Thomas, et saint Thomas est un ami. Et si on est néotomiste, on trahit saint Thomas. Parce qu'on fait un saint Thomas à la mode du jour. J'ai fait cette petite enquête personnelle pour regarder tous les néo-thomistes. Et puis chacun, j'ai vu qu'ils ont voulu mettre saint Thomas à la sauce kantienne, à la sauce hegelienne, à la sauce existentialiste. Mais saint Thomas n'est pas ça. Il cherche la vérité. C'est tout à fait autre chose. C'est l'intelligence qui veut aller jusqu'au bout. Et l'intelligence qui respecte. Et c'est peut-être ça qui est le plus grand dans saint Thomas. Contrairement à ce qu'on dit. C'est là où il a dépassé Aristote. C'est pas par rapport à sa conception de l'être. C'est pas ça, c'est par rapport à la bonté. Et c'est vraiment par rapport à la bonté que saint Thomas dit quelque chose qu'Aristote n'a pas dit. Pourquoi? Parce qu'il est dans une tradition chrétienne. Il y a un saint Augustin. Il se sert de cela. Il l'assume. Parce que pour saint Thomas, que saint Augustin soit platonicien, et donc on ne devrait pas le regarder, puisqu'il n'est pas aristotélicien, pas du tout. Saint Augustin dit des choses merveilleuses, étonnantes, comme chrétien, comme père de l'Église. Et saint Thomas s'en sert abondamment et avec un respect étonnant pour compléter, achever ce que Aristote disait d'une façon un peu incoative. Et il reprend tout cela en montrant cette convertibilité du bien, la raison du bien avec la raison d'être, la raison de vérité avec la raison de penser. C'est extraordinaire de voir cela, parce que là on touche, je dirais, ce sommet où saint Thomas exprime quelque chose qui n'avait jamais été exprimé avant. Je crois que au plan critique, donc au plan de la réflexion critique, quand saint Thomas donne cette vision merveilleuse des transcendentaux dans les questions disputées, on est en présence d'une réflexion critique au plan philosophique qui va très loin et qui nous fait saisir le génie de la pénétration de saint Thomas.
Il y a une question en même temps importante qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir s'il ne faudrait pas avoir l'audace qu'a eu saint Thomas en son temps, à savoir utiliser les philosophies de notre temps, les philosophies contemporaines, au service de la théologie, pour faire une théologie du XXe siècle, comme saint Thomas a eu l'audace au XIIIe siècle d'utiliser le philosophe Aristote. Est-ce que ce n'est pas la démarche qu'il faudrait faire si on voulait vraiment suivre saint Thomas comme exemple et non pas simplement le répéter?
Oui, je sais bien. J'ai entendu ça plusieurs fois dans ma jeunesse théologique. Et je l'entends toujours. Ce que saint Thomas a fait de son temps, nous devons le faire du nôtre. Il a utilisé Aristote, la noétique d'Aristote. Utilisons-nous aussi tous ces philosophes. Ça même a été écrit. Ce qui, avant le concile, avait été rejeté comme hérétique. C'est-à-dire Hegel, Marx, Freud, Nietzsche. Nous devrions, après le concile Vatican II, le réintégrer dans l'Église et considérer que ce sont des grands génies que l'Église doit accepter et prendre pour en faire une nouvelle théologie. Je comprends très bien. Ça sort d'une très grande générosité, ça. Je crois qu'il ne faut pas confondre la générosité et le désir de vérité et la recherche de vérité. T'as un petit peu cette confusion-là. Ceux qui disent ça, ça relève d'une très grande générosité. Et c'est vrai, si on pouvait faire ça, je trouverais admirable. Mais ils oublient d'abord que saint Thomas n'est pas tout à fait de son époque quand il vient à Aristote. C'était pas la mode. La mode, c'était au contraire de suivre Avicenne. C'était ça, c'était plus dans ce sens-là. Donc, quand saint Thomas recherche Aristote, c'est pas du tout pour s'adapter à son monde et à son époque. C'est pas le souci de saint Thomas. C'est pas, il sait très bien que c'est pas ce que Dieu lui demande. Lui, ce que Dieu lui demande, c'est une recherche de vérité en tant que théologien. Et il prend Aristote parce qu'il sait que là, il a compris. Et je crois qu'il a compris ça quand il a su par Avicenne cette parole que Avicenne cite comme de saint Thomas. Primo cadit in italetus ens. C'est la parole qui est Avicenne, que saint Thomas cite constamment. Et c'est ça qui l'a frappé. L'intelligence est faite pour l'être. L'intelligence est faite pour la vérité. L'intelligence est ordonnée fondamentalement vers la vérité. Donc, c'est la recherche de vérité. Pour nous, c'est évident que c'est tout à fait différent. Si on veut être de notre monde aujourd'hui, et l'apôtre doit être de son monde entièrement, il doit comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. faut arriver à pouvoir toucher les intelligences d'aujourd'hui. C'est bien ce que Vatican II demande quand il demande l'ouverture au monde. Il demande que l'Église, que la théologie ne soit pas dans un ghetto, et ne soit pas uniquement une théologie de quelques théologiens, de chambre, un petit cénacle de théologiens dans une forteresse et qui jette de la poix sur tous ceux qui ne sont pas du même avis. Et Vatican II montre que c'est pas ça que la théologie. Le théologien, il est au service du peuple de Dieu. Le théologien, il est mandaté par l'Église pour communiquer la parole de Dieu avec la plus grande intelligence qui soit, la plus grande intelligibilité qui soit, avec une possibilité d'accueil pour tous ceux qui sont des hommes et qui cherchent la vérité. L'ouverture au monde ne veut pas dire s'adapter à toutes les philosophies contemporaines. La foi reçoit la parole de Dieu. Et la foi est déterminée par la vérité qui se révèle à nous. C'est ça le mystère de la foi. La foi met en nous une orientation fondamentale vers Dieu qui est vérité. Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est vérité. Et pour nous, la foi chrétienne, c'est Jésus qui se dit la voie, la vérité, la vie. Et donc il est la vérité, la vie, et il est la voie. C'est pour ça que je ne peux pas lier la foi à des systèmes philosophiques qui ne cherchent plus la vérité.
On est dans une cohérence.
La foi, vous ne pouvez pas dire Descartes, qui ne cherche plus la vérité mais la certitude, et a voulu faire un essai de théologie parce qu'on lui a demandé du reste, on lui a demandé de faire une nouvelle théologie. Donc c'est vieux cette nouvelle théologie. Et Descartes a essayé de faire une nouvelle théologie, il a commencé sur l'Eucharistie. Et ça a donné des choses inadmissibles. Parce que, en fait, on ne peut pas faire un lien et une coopération entre la certitude de foi et la certitude cartésienne. La certitude cartésienne est une certitude d'ordre psychologique, de réflexion psychologique. Là, on est le plus certain. La certitude de foi est une certitude objective qui repose sur la révélation. L'une est divine et l'autre est psychologique. On ne peut pas faire l'alliance entre la finalité profonde de l'intelligence et le point de vue d'une modalité particulière de la connaissance intellectuelle qui implique la certitude, surtout quand cette certitude ne repose plus sur l'évidence et qu'elle est purement psychologique. Et dans la philosophie contemporaine, ce n'est même plus la certitude qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on recherche ? Dans la philosophie contemporaine, on recherche, j'allais presque dire, comme une originalité toujours nouvelle ou une pensée dialectique. Peut-on lier la foi à une pensée dialectique ?
Qu'est-ce que vous appelez une pensée dialectique ? Vous l'aviez un petit peu dit au départ,
la peut-être pensée, dire. Comme dans le système hegelien, c'est-à-dire que c'est le devenir vital de l'intelligence qui s'alimente par lui-même dans une immanence et qui s'alimente en mettant les contraires ou les deux termes contradictoires l'un en présence de l'autre, affirmation et négation, pour que à partir de là surgisse quelque chose de nouveau. Fondamentalement, on revient à cette pensée d'Héraclite, la guerre est le père de toute chose. Si je suis en face de deux termes opposés, ça va faire jaillir quelque chose de nouveau. Et alors, je m'en servirai dialectiquement pour progresser d'une façon immanente. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur ne peut plus être assimilé. C'est un procédé d'immanence de la vie d'intelligence, par le fait même dès le point de
Donc c'est typiquement l'idéologie, le processus de l'idéologie, c'est un système clos.
Un processus qui ne peut venir que d'une idéologie. C'est l'idée qui est première, et je divise l'idée, affirmation et négation. Et je découvre par là quelque chose de nouveau. Donc je ne peux pas unir une recherche de foi avec la pensée dialectique. C'est impossible. Je ne peux pas le faire, parce que la dialectique refuse justement ce qui transcende l'immanence de la vie d'intelligence. Donc, cette philosophie contemporaine étant dans l'idéologie et non plus une recherche de la vérité, on n'accepte que ce qui est dans la ligne même de l'idéologie et dans le point de vue de l'immanence profonde de la vie de l'intelligence. Je ne peux plus donc éclairer la révélation ou expliciter la révélation par ce point de vue qui est typiquement humain, qui n'est pas la finalité de mon intelligence, mais qui est ma manière, le conditionnement de ma vie intellectuelle. Je retrouve cette même distinction. L'ordre naturel et l'ordre surnaturel ne s'opposent pas, peuvent coopérer dans la finalité, mais ne peuvent pas coopérer dans leur manière particulière d'être. C'est comme si je voulais ramener la manière particulière dont Dieu vit dans son mystère trinitaire avec ma manière propre de vivre au point de vue psychologique. J'opposerai alors intelligence et volonté. Je mettrai une opposition entre le Père et le Fils, comme il y a une dialectique d'opposition entre le Père et le Fils. Du reste, ce sont des essais qui ont été faits. On a essayé de donner un traité de la rédemption et de l'incarnation en voyant comment le Père, comment le Fils vient réparer la faute du Père en opposition, l'opposition de la filiation et du Fils à l'égard du Père. Et donc, ces philosophies contemporaines ne peuvent pas expliciter le donné de la foi parce que elles développent ce qui, dans la foi, n'est pas le mystère. Elles développent ce qui est intelligible à cause de la parole dont Dieu se sert. Mais Dieu se sert de notre parole par miséricorde pour nous conduire au mystère. La foi adhère au mystère. Et là, on prend uniquement la foi qui adhère à la parole dont Dieu s'est servi. Mais Dieu s'est servi de cette parole en vue du mystère. Et le « en vue du mystère » est laissé tomber de côté. Et on ne se sert plus que de l'intelligibilité de la parole, comme si la parole de Dieu était une parole humaine. Et on regarde tout le conditionnement particulier de cette parole, les lieux et les temps où cette parole a été donnée.
L'herméneutique.
Et toute l'herméneutique qui naît à partir de là et qui commande toute la théologie. Cette théologie qui voudrait assumer cette pensée moderne et qui fait que par le fait même, on n'est plus du tout dans la finalité profonde d'une recherche de vérité. Et ça me semble extrêmement frappant, et c'est en effet l'herméneutique qui montre le mieux cela. Et on voit ça, j'allais dire, constamment aussi dans l'exégèse moderne. On s'intéresse plus à ce qui n'est pas de la foi que ce qui est de la foi. Et on développe ce qui n'est pas de la foi, du moins ce qui est l'intelligibilité que j'ai de la parole dont Dieu se sert. Donc on se sert plus de l'instrument que du contenu vers lequel cet instrument est le contenu vers lequel on tend grâce à ces instruments.
Pour vous, c'est quoi la parole de Dieu, l'écriture?
La parole de Dieu, c'est Dieu se sert de la parole humaine pour me révéler son mystère et nous révéler le regard de Dieu sur nous. Et la parole de Dieu n'a de sens que pour le croyant. La parole de Dieu, pour quelqu'un qui est purement philosophe, c'est une parole intelligente qui a des comparaisons merveilleuses. Mais le contenu de cette parole est tout entier saisi dans la finalité profonde. Dieu m'enseigne son mystère. Dieu me révèle son mystère. Il se sert d'un instrument qui est la parole humaine. Mais cet instrument, considéré en lui-même, est coupé l'instrument devient quelque chose de tellement énorme, on fait la philosophie de l'instrument et on ne voit plus la finalité. Et on s'arrête à l'instrument parce que l'instrument exprime parfaitement le conditionnement humain. C'est l'homme qui se sert d'instrument. Et l'instrument de la pensée, c'est la parole. Et on regarde cet instrument pour lui-même et on fait la théologie de l'instrument, oubliant la finalité. C'est, je crois, le très gros problème de ces théologies modernes, nouvelles. Je dirais, au-delà de ce qu'on dit, fidélité au magistère, il y a un vice initial, il n'y a plus recherche de la vérité. Et c'est peut-être cela qu'on devrait montrer avant tout, plus que la fidélité au magistère. Parce que cela, ça les irrite. Tandis que si on montrait que de fait, il y a quelque chose de plus radical et de plus vicié, c'est le manque de recherche de vérité.
Est-ce que pour vous, tout est acheté dans la théologie contemporaine ?
Non, pas du tout. La philosophie contemporaine...
La théologie contemporaine.
La théologie contemporaine doit nous éveiller sur certains problèmes que les théologiens, qui sont quelquefois un peu paresseux, exactement comme les sciences modernes réveillent constamment le philosophe et obligent le philosophe de regarder certaines choses qu'il n'aurait pas regardées.
Alors, quels sont les apports de la théologie contemporaine par rapport à la tradition ?
Je crois que ce sera le problème, un des problèmes qu'on regarderait dans la théologie de la libération. Parce que la théologie de la libération est très typique à ce point de vue-là. Ce serait le problème de ce déséquilibre radical au point de vue de la justice. Le théologien ne peut pas se désintéresser de l'homme, il ne peut pas se désintéresser de la politique, il ne peut pas se désintéresser de ce que c'est que la culture. Et on voit bien avec le pape actuel, il en parle tout le temps. Certains disent ça ne regarde pas le pape, mais oui ça regarde le pape, puisque l'homme vit dans cette culture. Et donc il doit... essayer de comprendre comment l'homme doit se servir de cela. Et si on est en face d'un vice radical de l'équilibre politique du milieu dans lequel l'homme doit se développer, le théologien doit y réfléchir. Le problème de la fécondation artificielle, ça regarde la théologie morale. Tout le problème de la fécondité, auquel saint Thomas, votre avis, est là-dessus.
Je vais vous dire qu'il y a des problèmes nouveaux au XXe siècle qui amènent le théologien à réfléchir de manière nouvelle.
Que ces problèmes viennent de la science bioéthique, que ces problèmes viennent de l'économie, que ces problèmes viennent des idéologies athées. Tous ces problèmes sont des problèmes nouveaux que les théologiens modernes regardent en premier lieu, tout de suite, et font leur théologie à partir de là. Et peut-être ne les regarde pas assez dans un regard contemplatif du théologien. Il ne remonte pas jusqu'à Dieu. Vous voyez, on fait aujourd'hui la théologie de tout. On fait la théologie de la communication. Je veux bien faire la théologie de la communication. Mais attention, ce n'est pas premier pour le théologien. Il doit donc, avant de faire la théologie de la communication, comprendre comment l'homme est engagé dans ses points de vue-là. Et c'est l'homme en tant qu'image de Dieu que le théologien doit regarder. Donc, c'est tout cet aspect contemplatif qui, la plupart du temps, est télescopé dans la théologie moderne et qu'on regarde ces problèmes immédiatement pour eux-mêmes. Alors qu'on devrait regarder comment sont nés ces problèmes, d'où vient que ces problèmes se posent. Et le théologien devrait d'abord avoir l'intelligence philosophique de ces problèmes. Or, il me semble que dans cette théologie moderne d'aujourd'hui, on télescope cette phase philosophique. Alors, comme on la télescope, le théologien, très facilement, tombe dans cette perspective qu'à la place de faire de la théologie, il fait de la philosophie. S'il avait fait la philosophie de la chose, il n'aurait pas la tentation de tomber dans cette perspective de la philosophie. Vous voyez, et ça, c'est le défaut de notre monde d'aujourd'hui, où tout est très rapide. On n'a plus le temps d'aimer. On n'a plus le temps de contempler. Peut-on faire une théologie sans amour et sans contemplation ? Pouvons-nous faire une théologie comme on fait du commerce ? Non.
Alors comment est-ce que vous situeriez dans tout ce contexte où à la fois il ne s'agit pas simplement de répéter Thomas d'Aquin, il ne s'agit pas non plus de recréer une nouvelle théologie à partir des idéologies contemporaines. Comment est-ce que vous restituerez un renouveau de la théologie aujourd'hui? Quel peut être aujourd'hui le travail du théologien?
Le renouveau de la théologie doit d'abord se faire par un renouveau de la philosophie. Vous savez qu'au point de départ, j'étais désolé qu'on me fourre comme professeur de philosophie. Et puis après, j'ai très bien compris que Dieu me demandait de faire de la philosophie parce que le mal d'aujourd'hui est tellement profond qu'il faut aller jusque-là. Si on ne refait pas une philosophie saine, on ne refera jamais une philosophie saine, une théologie saine. Alors on se contentera uniquement d'une description de la révélation. C'est très bien qu'il y ait un retour à l'écriture aujourd'hui, mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas suffisant en face des idéologies athées. J'ai vu cela d'une façon très nette avec les orthodoxes, avec certains professeurs de théologie orthodoxe, qui, eux, refusent la philosophie. Alors, je vois ce professeur de théologie orthodoxe, dont le fils est saisi par Heidegger. Il dit, mon père, qu'est-ce que je peux faire? Il est en train de perdre la foi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit, faites de la philosophie pour l'aider, pour comprendre les erreurs qu'il donne. Ah oui, mais c'est impossible, je ne peux pas faire de la philosophie. Mais il faut en faire. Saint Thomas l'a fait pour ça. C'est pour être défenseur de l'intelligence humaine et pour montrer que l'intelligence humaine a un rôle à jouer dans la foi. Je crois que c'est une petite tactique merveilleuse, en quelque sorte, de voir que l'orthodoxie, devant les problèmes d'aujourd'hui, sera obligée de reconnaître que c'était peut-être utile de faire de la philosophie. Et je crois que pour les protestants, nos frères séparés qui ont aussi la foi, ce sera, ils verront que c'est peut-être utile de faire de la philosophie, étant donné qu'une intelligence qui est saisie par des idéologies qui ne conduisent plus vers la vérité, c'est une intelligence qui refuse la foi. On rejette la foi comme quelque chose qui n'a plus rien du tout à voir avec l'homme, quelque chose qui est tout à fait en dehors de l'homme. Voyez, le rejet des greffes. Si les pères de l'Église ont pris l'image de la greffe, la foi est une greffe dans notre intelligence. Si notre intelligence ne recherche plus la vérité, la foi qui nous met en face de la vérité sera considérée comme quelque chose qui n'a plus rien à voir avec notre intelligence. Et alors on coupera les deux.
Oui. Donc vous voyez un peu une double utilité de la philosophie, c'est à la fois, comme vous le disiez tout au début, de pouvoir communiquer avec des hommes qui n'ont pas la foi et de pouvoir argumenter sur le plan humain et les rejoindre, et en même temps, pour avoir une théologie saine...
Assainir le terrain. Je crois qu'on doit faire quelque chose d'analogue avec les moines du début. Ils s'installaient dans les lieux où il y avait des fièvres paludiennes, et là, ils assainissaient. Aujourd'hui, on doit assainir le point de vue de l'intelligence. Et je crois que c'est l'œuvre du moine, ça. Parce que c'est très difficile d'assainir le terrain quand de fait tout autour.
C'est le travail que vous avez cherché à faire toute votre vie.
Voilà. Assainir l'intelligence pour voir tous les microbes, voir tous les insectes qui portent des fièvres paludiennes. Chasser tout ça. Autant qu'on le peut, on ne peut pas les chasser entièrement, mais qu'au moins, on rappelle constamment ce point de vue de la finalité de l'intelligence. Je crois qu'il y a là une comparaison qui est assez nette. C'est du reste, je crois, quelque chose qui est très important pour nous à saisir. Au début, les persécutions sont sanglantes. Aujourd'hui, on assiste à une intériorisation des persécutions. Elles sont plus sanglantes. Mais c'est des persécutions parce qu'on ne veut plus la recherche de la vérité. On ne veut plus que le chrétien soit celui qui le doit témoin de la vérité et qui accepte, comme Jean-Baptiste, d'avoir la tête coupée, tout simplement parce qu'il rappelle la vérité, et qui accepte d'être mis à l'écart, ça lui est égal, du moins est-ce que l'intention du Christ a été en premier lieu d'être de son temps? Non. C'est l'envoyé du Père. Et comme envoyé du Père, il nous dit ce que le Père lui dit. Eh bien, le chrétien, c'est un envoyé du Christ. Et en premier lieu, dans le monde d'aujourd'hui, il doit essayer. Alors il le fait avec toute la miséricorde du Christ. Et il faut qu'il le fasse avec toute cette miséricorde. Donc, on ne doit pas toujours dire qu'on n'est pas d'accord, mais on doit créer de nouvelles avenues vers cette vérité pour que, de fait, les hommes d'aujourd'hui puissent découvrir des voies d'accès nouvelles vers le point de vue de l'évangélisation. Et peut-être un des sens profonds de la nouvelle évangélisation. Parce que la première évangélisation, il y avait un milieu humain. C'est, je crois, toute la différence entre saint Thomas et nous. C'est que pour saint Thomas, il avait un milieu humain. Nous n'avons un milieu qui n'est plus humain. Avec ce primat de l'efficacité, ce primat de l'économie. Et on doit constater ça. On doit le voir. L'économie en soi n'est pas mauvaise. Cette efficacité en soi n'est pas mauvaise. Mais quand elle passe devant les autres, qu'elle étouffe les autres, on est devant un phénomène de situation limite.
Mais là, vous êtes complètement isolé, parce que qui aujourd'hui dans l'Église dit la plus grande urgence, c'est la philosophie, et même toutes les nouvelles communautés, toutes les bourgeons qu'on voit cherchent plus à une évangélisation directe en disant c'est la plus grande urgence, et là vous dites non, au fond, ce qui est plus fondamental, si on veut poser des bases solides, c'est la philosophie. Vous vous sentez pas complètement solitaire
là ? Je ne condamne absolument pas les deux choses, je dirais. C'est comme dans toute bonne stratégie. Il y aura toujours deux choses différentes. La philosophie est nécessaire pour les théologiens. Je regrette que la philosophie ne soit pas enseignée comme elle devrait l'être vis-à-vis de tous ces chrétiens qui sont très intelligents dans leur science, dans leur technique, dans leur information historique et qui oublient la recherche de la vérité. Donc, c'est pour tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre, aussi bien les laïcs que ceux qui se vouent au sacerdoce ou à la vie religieuse. C'est nécessaire d'assainir le terrain. Et ça, je l'ai senti, moi, d'une façon extraordinaire. Et c'est pour ça que dans la communauté Saint-Jean, on fait de la philosophie dès le noviciat, assainir le terrain. Parce que si le terrain n'est pas assaini, le noviciat cachera les microbes. Et dès qu'on sortira, ça repoussera avec toute force. Il faut les déterrer, ces microbes. Il faut les enlever. Donc, je dis, ça, c'est pour ceux que Dieu demande à être ceux qui pensent dans l'Église, ceux qui doivent contempler. C'est les contemplatifs. Et je crois que ça devient nécessaire pour